l'antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Et nous accueillons Anna au 3921. Bonsoir Anna.
Bonsoir Olivier.
Comment allez-vous Anna?
Je vais aller, ça va.
Très bien. Alors Anna, on a avant l'information sur Europe 1, on a encore 3 minutes. Donc racontez-nous, en fait, on s'est déjà parlé au téléphone une fois. Recontextualisez-nous un petit peu votre histoire, s'il vous plaît.
Alors, je vous ai appelé la première fois pour vous raconter l'histoire de mon amie qui faisait écho à la mienne, puisque son ex-compagne, en janvier de l'année dernière, suite à leur séparation, avait décidé de partir 15 jours se ressourcer aux Antilles avec leur petite fille. Et ce qui était prévu, c'était d'organiser leur séparation à son retour. Ils vivaient à l'époque sous le même toit. Et à l'issue de ces 15 jours de vacances, elle a fait le choix de ne pas rentrer. Ce qui en soi est un enlèvement d'enfant. Il avait à l'époque saisi le JAF en référé de son lieu de résidence. Et contre toute attente, il avait découvert le jour de l'audience que son ex-compagne avait déposé une plainte le jour de son départ, qu'elle avait produit un faux certificat de résidence du lieu où ses parents habitent, au lendemain de son arrivée là-bas, qui disait que la petite habitait avec elle, chez ses parents, une main courante qui avait été enregistrée par son oncle, enfin voilà. Et malgré tous ces documents et toutes ces malversations, le juge à l'époque avait constaté le départ déloyal de la maman, mais au vu du jeune âge de l'enfant, avait laissé le droit de résidence de la petite avec elle, donc aux Antilles. Et avait octroyé à mon amie la totalité des vacances scolaires, enfin en tout cas 80% des vacances scolaires.
Oui.
Et contre toute attente, la maman a tout rejoué en fait. Elle a fait appel de la décision en demandant une réduction encore des droits de visite. Et pendant les 12 mois qui ont suivi, elle n'a jamais respecté le jugement qui avait été donné par le JAF. Elle s'est livrée encore à d'autres malversations, dont du harcèlement, cyberharcèlement, harcèlement au travail, pression sur la famille, refus d'appel, refus de présenter la petite aussi. Et ça a duré comme ça jusqu'à la date d'audience de la cour d'appel.
D'accord. Voilà. Alors, on va parler de tout ça et savoir quelle est la suite que le destin a donné à ces événements, ou plutôt les acteurs hein, de votre histoire. On se retrouve juste après le journal de minuit, d'accord Anna?
Ok,
vous restez bien avec moi et on se retrouve dans 4-5 minutes, d'accord?
Merci.
À tout de suite. Minuit passé de 6 minutes, vous êtes toujours sur votre radio, sur votre libre antenne. N'hésitez pas à composer le 3921, nous sommes là pour vous écouter et ce soir particulièrement, vous pouvez tenter. Il y a de la place pour vous, nous sommes toujours là pour vous. 739-21 pour vos SMS, 739-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un tiret. Et puis toujours notre adresse mail, libreantenne@europain.fr pour échafauder vos futurs témoignages. 3921, Florian et Natacha vous attendent. Nous sommes donc avec Anna, nous évoquons cet enlèvement parental. Alors, reprécisez-moi pourquoi vous qualifiez ça d'enlèvement parental, Anna, parce que elle est partie en vacances donc avec sa fille, cette dame, l'ex donc de votre amie, et elle n'a pas ramené sa fille, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
D'accord.
Ouais, donc c'est qualifié aux Antilles.
Aux Antilles.
Voilà.
Et c'est qualifié de par la justice de non-présentation d'enfant ou d'enlèvement parental?
Non, c'est qualifié dans les faits, c'est qualifié de rien du tout. En théorie, dans les textes de loi, c'est un enlèvement parental, puisque quand deux personnes habitent sous le même toit, qu'ils soient mariés, pacsés ou en union libre, à partir du moment où ils souhaitent se séparer, il faut qu'ils organisent la garde, enfin la vie de leurs enfants. Et avant de déménager ou avant qu'un des deux parents fasse le choix de déménager, en l'occurrence ici à 8000 km, il faut qu'il y ait une décision du CIS qui soit prise au préalable. Voilà, là ça n'a pas été le cas en fait dans un premier temps. Donc il y a effectivement séparation, il y a engagement de la part de la maman d'effectivement revenir en métropole parce qu'elle avait aussi une vie en métropole, voilà, donc avec la petite fille. Elle parle de vacances au départ, elle fait un papier qui dit qu'elle part bien en vacances, elle le mentionne dans sa main courante aux Antilles, d'ailleurs, qu'elle est en vacances. Et au dernier moment, elle décide de ne pas revenir, prenant finalement en otage sa petite-fille et le père de sa petite-fille.
D'accord. J'entends. Donc, en fait, aujourd'hui, la justice a décidé d'attribuer à votre ami... combien de temps pour qu'il voit sa fille et découper comment exactement?
Alors, dans un premier temps, sur le premier jugement que le JAF a rendu en référé, il avait la quasi-totalité des vacances scolaires, excepté un mois sur deux l'été et je crois une fois sur deux pour les vacances de Noël, en fait. Voilà. La juge expliquait bien que c'était à charge de la maman dans la mesure où elle était partie de manière complètement déloyale. Voilà. Ce qui, en soi, était déjà très traumatisant, puisque du jour au lendemain, et le papa et la petite fille ont été privés l'un de l'autre par le biais de la seule et unique décision de la maman. Voilà, c'était pas une décision conjointe, c'était pas une organisation conjointe. Dans l'absolu, il aurait fallu saisir le JAF avant de décider de partir et de lui soumettre l'idée et ensuite de s'organiser. Voilà. Donc là, le premier jugement au mois de mars donc mentionne ceci. Et contre toute attente, la maman fait appel de ce jugement en demandant une réduction donc des droits de garde, oui, du papa sous couvert que la petite est petite. Voilà. Donc, à l'issue des mois qui ont séparé, le référé de l'appel, le dossier, il y a eu appel incident. Du coup, il y a plus de 200 pages de dossier parce que, au vu des agissements de la maman et effectivement au vu qu'elle ne respecte pas le premier jugement, voilà, donc on est plutôt confiant. Quant à la décision de justice, l'avocate est confiante, voilà.
Elle peut l'être, vous savez, Anna, parce qu'à partir du moment où il y a déjà un jugement de rendu et que la mère ne respecte aucunement ce jugement, on peut, ici, on a souvent parlé de cette justice familiale, mais elle est aussi... c'est compliqué quand l'enfant est jeune, comme cette petite fille a l'air d'être. Quel âge a-t-elle, cette petite fille ?
Elle a moins de 3 ans.
Elle a moins de 3 ans. Donc, la justice y va quand même de manière délicate, parce qu'il y a une maman, et bien évidemment, la maman, vous le savez, historiquement, quand les enfants sont petits, la justice décide souvent de ne pas séparer la maman de son enfant. Maintenant, il y a quand même un jugement qui est rendu. Il y a un papa, surtout, qu'il faut aussi prendre en compte. Et si cette femme ne respecte pas le jugement qui, quand même, ça va, ce premier jugement, il lui était largement favorable, si j'ai bien compris.
Mais évidemment, oui.
Et qu'elle ne respecte pas ça, je pense que vous pouvez faire confiance, pour l'instant, au ressenti de votre avocate, parce que on est aux Antilles, on est en France, aux Antilles.
Ouais. C'est ça.
Et donc, du coup, ça ne va pas se passer comme ça. Je pense réellement qu'elle prend des risques, cette dame.
Oui, et puis on a des comportements qui sont complètement hallucinants. La première NRE du mois d'avril, elle fait parvenir un justificatif comme quoi elle est en convalescence parce qu'elle s'est fait refaire la poitrine. enfin, et donc du coup qu'elle ne peut pas, elle n'est pas en état de faire, de ramener l'enfant sur le sol métropolitain. Enfin, on a 200 pages de dossier de cet ordre-là. C'est de la science-fiction.
Ouais,
c'est vraiment, enfin, mm-hmm. avec tout est, enfin, on pourrait en parler pendant 10 jours. Hein. On peut faire un livre avec. Hein. C'est, on est, la dame juste avant disait qu'elle se sentait en plein cauchemar. Là, pour la peine, c'est la même chose. Enfin, mm-hmm. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un événement.
Est-ce que votre ami, donc le papa de la petite, arrive tout de même à l'avoir au téléphone, cette petite? Est-ce qu'il entretient, il a pu maintenir le lien ou son ex?
Alors sur les 12 mois qui séparent la décision en référé avec l'appel, il essaye toujours droit dans ses bottes effectivement de maintenir ce lien, de l'avoir. Alors évidemment on sait jamais, hein, il essaye d'appeler, tantôt il a, tantôt il l'a pas, c'est des insultes continues. La petite arrive à venir l'été parce que une de ses tantes à lui vient passer des vacances en métropole l'été, et donc du coup arrive à convaincre la maman de pouvoir emmener la petite trois semaines en été. À la Toussaint, malgré les lettres de l'avocat, malgré les appels en gendarmerie, nouveau, plus de nouvelles, et puis après, ben il y a la plaidoirie de l'appel, et puis il y a la décision de la cour d'appel, voilà. Et là depuis, c'est le cauchemar. Voilà.
C'est-à-dire que la décision de la cour d'appel, vous l'avez déjà?
Oui, elle est tombée. Elle est tombée et on s'était dit qu'on se rappellerait justement.
D'accord. Oui, c'est vrai.
Après cette décision. Et elle est effectivement tombée fin janvier.
Oui.
Et contre toute attente, à aucun moment n'est mentionné dans cette décision les agissements de la maman. Donc on ne revient pas sur les agissements de la maman sur ces 12 derniers mois, c'est-à-dire que les 200 pages de dossier n'ont absolument pas été pris en considération. On décide que la maman s'occupe très bien de la petite fille et qu'elle donne régulièrement des nouvelles au papa. Donc à aucun moment on reconnaît le fait que le premier jugement n'a jamais été respecté, malgré les NRE, malgré les lettres, malgré de l'avocat et les réponses et l'absence de réponse. On octroie à mon ami actuellement 7 semaines d'accueil, c'est-à-dire que la période d'accueil entre février de l'année dernière, alors que la petite avait moins de 2 ans, et maintenant, où elle va avoir ses 3 ans, est réduite quasiment de moitié. Malgré cela, on lui explique qu'il n'y a aucun souci avec ses compétences éducatives, hein, qu'il n'y a pas de problème, que c'est un bon papa, voilà.
Oui.
On dit que la maman n'a pas revendiqué de pension alimentaire, mais qu'elle aurait pu, sachant que dorénavant, les frais de transport sont à charge du papa. Et que accessoirement un aller-retour les Antilles, la métropole, à peu près
2 000 euros,
200 euros, hein, voilà.
Combien,
oui, 1 200 euros pour,
d'accord,
une personne. Mm-hmm. Voilà. Donc ce qui le contraint clairement à devoir systématiquement aller aux Antilles pour pouvoir voir sa petite fille.
Oui.
Ce qui veut dire aussi que tous les liens que cette petite fille a pu tisser avec sa famille qui est en métropole, avec les amis, enfin tout ça,
C'est-à-dire qu'en gros, en fait, elle ne peut revenir que l'été, durant les 3 semaines.
C'est ça.
Ouais. Autrement, c'est trop court.
C'est 2 semaines en février, effectivement, en mois d'été, et une semaine à Noël. Mmh. Une semaine.
Une semaine à Noël, la moitié.
Voilà. Mmh. Ouais, donc, sur un déplacement qui prend une journée, et sur un décalage horaire qui est entre 5 et 6 heures...
C'est vrai que ça ne fait pas beaucoup, hein, pour vous, c'est clair. Il est clair que...
La question à se poser, c'est comment être papa en 7 semaines, quoi. Est-ce que à quel moment la justice française décide que on peut être papa en cette semaine. Voilà. Et surtout, quand bien même le droit de résidence reste auprès de la maman, pourquoi clairement sanctionner cette petite fille et son papa en réduisant les droits d'accueil ?
Ce qui est assez incompréhensible, en fait, pardonnez-moi de vous interrompre, mais ce qui est assez incompréhensible dans cette décision, bien évidemment, ce sont ces 7 semaines que vous soulignez.
C'est 7 semaines et l'absence de reconnaissance des malversations de la mère, parce finalement, je suis moi-même maman, séparée, on se dit, mais moi, il y a 5 ans, j'aurais dû partir en vacances avec mes enfants. Ça m'aurait évité des frais de procédure, du temps, de l'énergie, des discussions. C'est porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et c'est incompréhensible, en fait. C'est sur les fesses, c'est pas, on peut pas cautionner, valider. Enfin, nous, ce qu'on aimerait, c'est comprendre, en fait, ce qui fait qu'à un moment donné, finalement, c'est normal, c'est considéré comme normal. Et au-delà du soi-disant, parce qu'on dit toujours que dans cette décision-là, c'est le bien-être de l'enfant qui prime. Mais on a quand même une petite fille à qui on a annoncé, même si elle avait moins de 2 ans, qu'elle partait en vacances avec sa maman et donc qu'elle allait revenir. Elle était à la crèche, elle avait ses copines, ok, elle a moins de 2 ans, mais c'est pas parce qu'elle parle pas que...
Absolument voilà, pas, vous avez raison.
Et cet enfant... n'a jamais retrouvé sa maison.
Et c'est vrai que vous avez tout à fait raison d'emprunter cet enlèvement parental parce que ça l'est. Si on a raconté à cette petite fille qu'elle partait voir grand-mère, grand-père aux Antilles et qu'elle n'est jamais revenue, du haut de ses 2 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer dans cette petite tête-là, mais croyez-moi que c'est bien imprimé à sa manière et que c'est prendre la responsabilité de mentir à son enfant en pensant que parce qu'il a 2 ans, voilà, ça n'aura aucune conséquence. De toute façon...
Oui, mais le drame, c'est qu'à la limite, que la maman, à ce moment-là, soit aveuglée par... l'émotion, les sentiments, enfin je sais quoi. Voilà. Mais il y a quand même un cadre juridique en France qui est censé être fait. Alors oui, pour protéger les papas et les mamans, parce que je ne veux pas rentrer dans le débat de chambre au vu de mon histoire aussi. Mais en dehors de ça, le cadre juridique est fait pour protéger les enfants. Et à quel moment, on la protège ?
À aucun.
À quel moment cet enfant est protégé ?
On pense la protéger en donnant cette semaine au papa et en pensant qu'il va dire amen et merci.
Mais je veux dire, ça serait s'il y avait des mesures éducatives ou s'il y avait eu des soucis quand on... sachant que la maman avait demandé une enquête sociale pour retarder la date, l'enquête sociale qui n'a pas été acceptée par la cour d'appel, parce qu'il n'y avait pas de raison de la demander à la base, l'enquête sociale. Mais là, il n'y a pas, ils refusent l'enquête sociale et à l'arrivée, ils réduisent de plus de moitié le droit d'accueil. Parce que la petite est petite. Mais à partir de quand elle est plus petite ? Moi, mon autre question, c'est ça. C'est à 3 ans, on a droit à 7 semaines avec son père ou avec sa mère, parce qu'on peut imaginer que les papas fassent ça aussi.
Bien sûr.
On pourrait imaginer que demain, le père de mes enfants décide de les emmener en vacances à l'autre bout du monde et il reste avec elle en vacances parce qu'il décide de... Voilà. Donc, ça veut dire que à 3 ans, on a droit à 7 semaines. À 4 ans, 8, enfin, comment ça se passe concrètement Et donc, le résultat de ça, ça a été que le lendemain du rendu de la décision de la cour d'appel, évidemment, les postes d'insultes ont recommencé. on s'y fait au bout d'un moment, c'est presque plus grave. Hein. Et par contre, la seule chose qu'il a finalement gagnée auprès de la justice, c'est au lieu d'avoir un appel vidéo qui n'était déjà pas respecté régulièrement, voilà, il en a eu trois. Ben là, ça fait 15 jours qu'il n'a plus du tout de nouvelles de sa fille.
Est-ce que vous faites constater tout ça, là, en ce moment ?
Bah là, on va y retourner.
Ça doit être compliqué, en plus, tout ça.
On va y retourner, mais vous savez, quand les NRE sont placés sans suite et que vous allez porter plainte parce que les appels audio ou vidéo ne sont pas respectés, on vous regarde malheureusement avec beaucoup de compassion. Et
oui,
beaucoup
oui,
de pitié,
oui, bah oui, j'imagine.
Et on vous explique que, OK, on prend votre plainte. Mais que voilà quoi, après 200 pages, enfin je sais pas, le travail qui a été fourni en amont pour arriver à sur des faits, hein, sur des faits dans le dossier d'appel incident, encore une fois, arriver à démêler les nœuds sur ces faux papiers, sur ces inscriptions qui avaient été faites, où elle ne mentionne pas le papa, la petite était en crèche fin janvier, donc elles auraient dû rentrer le 19 janvier, la petite était inscrite à la crèche au 30 janvier. Impossible, enfin légalement pas possible si vous n'avez pas de certificat de résidence, si vous n'avez pas un changement de domicile, normalement c'est pas possible. Il n'y avait pas de changement de domicile à l'époque, hein. Elle résidait encore en métropole, hein. Voilà. Enfin, ça a été du temps, ça a été une énergie incroyable pour arriver à donner tout ça à l'avocat. Et évidemment, quand elle a eu le dossier, c'était easy presque pour elle. Hein. Voilà, on a consulté un autre avocat spécialiste dans les enlèvements avec qui on aurait pu travailler aussi, mais on avait fait le choix à l'époque de rester avec la première avocate qui avait fait le référé parce qu'elle connaissait l'affaire. Et le second avocat avait dit à mon ami qu'il fallait surtout pas lâcher, que c'était de la science-fiction, qu'il fallait récupérer cette petite fille et que voilà, que ça allait le faire parce que c'était trop énorme, quoi. Donc, 200 pages de dossier, de travail pour... certainement retourner porter plainte pour les appels. Mais vous savez, il a eu ces mots tout à fait forts au lendemain de la décision en me disant que finalement, la justice l'avait tué. Et c'est vrai. C'est vrai parce que où est la justice, là ? Pour cette petite fille et pour lui, où est la justice ? Qu'est-ce que la personne ou les personnes qui prennent ce type de décision
la justice,
elles attendent quoi ?
La justice, malheureusement, vous savez, la perception que j'ai de votre histoire là, et qui est en même temps accompagnée d'une pointe de détresse quand je pense
carrément.
À mais oui, une pointe de détresse pour tous les enfants qui sont victimes de ce type de comportement de la part d'adultes, de cette mère, par exemple, qui a un comportement totalement... je ne sais même pas comment... Irresponsable, je trouve.
C'est de l'irresponsabilité. Je veux dire, après, c'est la question aussi, c'est à se poser comment une petite fille peut s'épanouir sereinement et de manière équilibrée avec l'un de ses deux parents qui est dans cette dynamique-là. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette histoire, malheureusement, fait écho à mon histoire d'enfant. Moi, j'ai vécu ça, mais de l'autre côté, en tant qu'enfant, il y a un peu plus d'une trentaine d'années, avec un papa qui était parti avec mon petit frère et ma petite sœur.
Oui, oui, je me souviens.
Et du coup, je sais en tant qu'enfant, enfin, je sais le travail que j'ai dû faire pendant des années pour passer au-delà de ça.
C'est de ça dont je vous parle, Anna.
Et c'est exactement ça. Et je me dis que 30 ans après, finalement, il n'y a rien qui a changé.
C'est pour ça que c'est aussi cette détresse-là dont je fais, à laquelle je fais allusion. Parce que la justice, aujourd'hui, familiale, ne juge pas ce type de d'affaires. Pourtant très sérieuse, et quand je dis très sérieuse, pour l'équilibre des uns et des autres, la justice familiale ne juge pas sérieusement ces choses-là, en fait. C'est-à-dire, je m'explique, hein, c'est que Depuis le début, là, vous n'êtes pas, bien évidemment, le premier témoignage autour de cette mmh. guerre que certains se livrent avec les enfants au milieu. Et même, je parle de guerre, même si je sais que votre ami essaie de suivre la justice, de bien rester dans le cadre. Mais cette justice, comme vous dites aujourd'hui, il y a une mère d'un côté qui a un comportement complètement irresponsable, qui emmène sa fille aux Antilles, qui ne la ramène pas, qui refuse les appels au papa, les appels vidéo, qui ne respecte pas les décisions de justice, et on la laisse aller comme ça, on continue, avec peut-être de grandes chances que ça continue comme ça. C'est incompréhensible.
C'est même pas que ça va continuer, c'est que ça va empirer. Parce que je me dis finalement, quand c'est limité à 50, que vous roulez à 90 et qu'on vous dit allez-y, faites du 110. Vous allez rouler à 130 et ça ne va faire que s'empirer.
Par contre, vous faites bien de parler de ça. Par contre, sur d'autres domaines. Dans d'autres domaines, croyez-moi que, en tant que contribuable, en tant que conducteur, là, par contre, tout est fait de manière très précise et très méthodique pour pénaliser, pour bien suivre, pour rappeler, et c'est complètement hallucinant parce que, en fait, on est dans des histoires, des histoires humaines d'une importance capitale pour l'équilibre des uns et des autres, des parents bien évidemment, de ces enfants, de cet enfant que vous avez été vous hier et qui dit aujourd'hui combien elle a mis de temps encore aujourd'hui qui doit se reconstruire de ce que votre père vous a fait vivre, avec une justice au milieu qui finalement mais ne se bouge pas tant que ça juge comme ça et puis en appel attend 10 mois plus tard. Dis-moi, quand un enfant a 2 ans, dis-moi, c'est beaucoup, beaucoup de temps qui s'écoule, beaucoup de temps, assez de temps pour que l'enfant oublie le visage de son papa, oublie tout un tas de choses, son odeur, semble totalement hallucinant, hallucinant. En plus, là, on parle d'un truc qui se passe sur le... Oui, j'ai fait un film sur les enlèvements parentaux. Quand un des deux parents s'en va au Brésil, s'en va au Vietnam, s'en va en Thaïlande ou en Russie. On peut avoir peur de ne pas pouvoir régler ce type d'histoire parce qu'il y a le droit du pays. Il y a peu de temps, il y a un grand-père dont le fils était marié à une japonaise et qui évoquait le cauchemar que son fils traverse et que eux, en tant que grands-parents, traversent parce que le droit japonais est horrible à ce niveau-là. Et donc du coup, vous voyez, on peut s'étonner tout de même dans ce pays qui crie dès qu'il en a l'occasion que c'est le pays des droits de l'homme. Mais non, on n'est pas dans, on n'est pas, c'est, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas sérieux.
Sachant que si lui, et ça on le sait aussi, que si dans la configuration actuelle, que si lui se permettait de ne serait-ce que de mettre un orteil en dehors du cadre...
Il pourrait se faire allumer.
Oui, c'est ça.
Ben oui.
Et ça, c'est terrible. Mmh. Et ça, c'est terrible parce que c'est terriblement injuste, en fait. Voilà.
Et je vais vous dire ce qui est plus grave, Anna, en fait, c'est que il y a votre histoire ce soir, mais il y a des milliers et des milliers d'histoires comme celle-là aujourd'hui qui produisent finalement des enfants qui ne seront pas très équilibrés, qui auront un travail à faire sur eux. Ça produit des parents en colère parce qu'ils estiment qu'ils ont été traités d'une manière injuste et qu'on ne les a pas défendus. Et que ça donne tout de même des adultes avec... une certaine rancœur contre la société. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, ce que je viens de citer. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de gens qui se séparent avec des enfants au milieu et qui se livrent une guerre sans merci et avec une justice qui est, alors, à sa décharge, débordée. Mais vu le sérieux de ces histoires, quand je dis le sérieux, c'est-à-dire le côté vraiment vital pour les uns et les autres de bien... bien juger tout ça, et être ferme, pointilleux sur les attitudes des uns et des autres si elles ne sont pas respectées. C'est vraiment... Oui, ça me...
Bah, la question, c'est pourquoi, en fait, à partir du moment où...
Pourquoi vous l'avez, la réponse? Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. On le sait tous ici, pourquoi. Parce qu'on a des tribunaux engorgés, avec des juges qui sont totalement débordés, avec leurs assesseurs qui le sont tout autant, avec des greffiers qui le sont tout autant. C'est un... Pardonnez-moi du terme, mais c'est un bordel monstre qui se passe en ce moment autour de cette justice familiale. Parce que il y a pas assez de juges. Il y a une défaillance à ce niveau-là. Une vraie défaillance.
Mais quand on a le compte rendu de la cour, enfin c'est tellement ça tient tellement pas à la route. Je veux dire, à un moment donné, c'est je sais même pas comment est-ce qu'on peut pondre ça. Enfin, je veux dire, c'est tellement en incohérence avec ce qui s'est passé, avec ce qui a été plaidé, avec les documents qui ont été envoyés, qu'on peut pas taper à ce point à côté. Pour la petite anecdote, je vous avais expliqué qu'elle avait déposé plainte pour violence le jour de son départ. Plainte qui n'a pas abouti, hein, qui a été classée sans suite ou qui est encore dans les tuyaux, puisqu'il n'y avait pas de certificat médical et puis qu'il n'y avait rien eu, hein, de toute façon. Donc voilà, mais qu'elle avait cité le jour du référé. Voilà, cette plainte n'a toujours pas abouti. Dans le compte-rendu de la cour d'appel, le juge de la cour d'appel mentionne le fait que mon ami a peut-être été violent, que le fait qu'il ait été violent, donc il affirme que le fait qu'il ait été violent n'est qu'un fait isolé, qui ne remet pas en question ses capacités éducatives par rapport à sa fille. Pour moi, c'est un scandale. Comment un juge en cour d'appel peut-il se baser sur une plainte qui, a priori, est diffamatoire, puisqu'elle est classée sans suite ou dans les tuyaux?
Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il s'appuie sur un... qu'on oublie de 200 pages d'arriéré.
Et en dehors de ça, les 200 pages, effectivement, d'arriéré avec des preuves, hein, les documents, la main courante faite par l'oncle, le certificat de résidence qui ne peut être produit par une mairie à la date où il est donné, hein, puisque la petite fille habite en métropole, elle est à la crèche en métropole, voilà, ce certificat est faux, simplement, bon, voilà, elle fait partie d'une famille qui est influente sur le territoire antillais. Le maire de cette commune connaît la famille.
Du côté de la mère, donc. Hein.
Du côté de la mère, voilà. Et je pense qu'on n'a pas mesuré à quelle hauteur elle pouvait l'être, hein, influente. Hein. Mais tout ça, on n'en parle pas. Donc ça ne choque pas, enfin ça a été plaidé pourtant par l'avocate le jour de la plaidoire. On ne dit pas un mot là-dessus.
Non, mais
Les NRE, on n'en parle pas. Les non-représentations d'enfants, on n'en parle pas.
Non, mais
par
Anna,
contre,
vous savez...
on mentionne un fait qui n'est pas qui est basé sur des dires, sur des mensonges.
Oui, et puis surtout un fait qui n'a pas été suivi pour l'instant visiblement par le procureur. Mais vous savez, on pourrait en parler encore longtemps. Je vais être obligé de conclure avec vous parce qu'il y a encore quelques personnes derrière vous, mais n'hésitez pas à me tenir au courant, mais évidemment, comme vous l'avez fait là, je crains...
Ouais.
Allez-y,
oui,
concluez.
Pardon. Oui, pour conclure, en fait, la suite, c'est un pourvoi en cassation. Il faut savoir qu'un pourvoi en cassation, les avocats, tout ça,
ça coûte de l'argent.
7 000 euros. Mmh. Voilà. Plus les allers-retours en avion, hein, puisqu'il s'agit il s'agit quand même de pouvoir aussi garder ce lien avec sa petite fille. Donc, on cherche à réunir les sommes, même si on travaille tous les deux, mais justement, on travaille, on n'a pas d'aide juridique, pour pouvoir mener ce dossier en cassation. Il faut savoir que juste la présentation du dossier pour savoir s'il est accepté ou s'il est susceptible d'être accepté en cassation, c'est 2500 euros, juste pour savoir si le dossier va être accepté. Voilà, donc on a... On a mis en place une petite cagnotte, enfin on essaye de réunir, voilà. Et en dehors de ça, on cherche vraiment à ce que ça se sache, parce que je pense que à un moment donné, nos politiques doivent quand même être au courant et que chacun puisse prendre aussi ses responsabilités par rapport à ces décisions qui sont juste hallucinante. Et je le dis et je le répète, en France, la justice valide les enlèvements. Donc, partir en vacances avec son enfant et ne pas revenir, ben, c'est normal. Voilà, donc on a du souci à faire. Enfin, tous les gens qui sont actuellement en couple avec des enfants en bas âge ont vraiment du souci à faire. Et je trouve ça d'une tristesse
infinie.
Ouais. Infinie, oui. Mmh. Voilà.
Merci. Donc, merci Anna. Voilà. En tout cas, je pense que vous aurez bien résumé cette situation et voilà, le désarroi et l'incompréhension que cette situation provoque, bien évidemment, et on pourrait continuer, j'en suis sûr, pendant longtemps. Vous n'hésitez pas à nous tenir au courant, en tout cas, de la suite des événements qui j'espère tourneront un peu mieux pour vous, mais bon, j'ai peu d'espoir vu le système, mais bon, on verra, hein. Vous me tenez au courant.
On fait appel s'il y a des gens qui nous entendent, et voilà, s'il y a des pistes de médiatisation.
Bah, en tout cas, voilà. on vous mettra en rapport si des gens veulent se mettre en rapport avec vous, ne vous inquiétez pas, ok ?
Merci.
Je vous en prie, Anna. Bon courage.
Bonne soirée,
au revoir.
Au revoir.